vie. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 3 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. En RDC, 16 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans la province de l'Ituri. Inquiétude sur les droits de l'homme en Tunisie. L'ONU propose son assistance. Iran, l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi intronisé président aujourd'hui. Afghanistan, des combats meurtriers se poursuivent dans le sud du pays. L'ONU s'inquiète pour les civils. Ne manquez pas dans cette session d'information les sports avec notre spécial Jeux Olympiques. Mais tout d'abord, le journal. Nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 16 civils ont été tués hier en Ituri. Cette tuerie est attribuée au groupe armé ADF selon des sources militaires. Claire Morin-Jibou.
Les victimes ont été exécutées à l'arme blanche sur la route nationale 4 à hauteur de la localité d'Idohou, a précisé Dieudonné Malangaï, vice-président de la société civile de la chefferie de Walese Vonkotou. Il précise que parmi les victimes figurent au moins deux femmes, prises en otage il y a quelques semaines par les rebelles des forces démocratiques alliées ou ADF. Lors d'un meeting à Komanda, le lieutenant-général Nkashama, gouverneur militaire pour l'Ituri, a déploré cette tuerie et a affirmé que l'armée allait renforcer sa présence dans la région. L'objectif est de nettoyer la zone et de permettre à la population de regagner les villages, a-t-il ajouté. On pensait que l'état de siège allait ramener la sécurité, mais les gens continuent à mourir tous les jours, ont lancé certains habitants qui ont exprimé leur déception. Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège afin de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les populations.
Au Mali, un grave accident entre un camion et un bus de la compagnie Nyono Transport a fait une trentaine de morts et plusieurs blessés ce mardi. Les autorités se sont rendues sur place et au chevet des blessés. Les détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Ce mardi 3 août, la route a de nouveau fait des victimes au Mali. Un accident mortel s'est produit à Zambougou, à 20 km de la ville de Ségou. Un camion chargé de vivres est rentré en collision avec un car de la compagnie Nyono Transport. L'accident survenu aux environs de 11 heures a fait une cinquantaine de victimes. Selon la page Facebook du ministère de Transport, le bilan provisoire est de 37 morts et plusieurs blessés graves. Des blessés qui ont été conduits à l'hôpital de Ségou. Toujours selon la page Facebook du ministère des Transports et des Infrastructures, le ministre est arrivé sur les lieux aux environs de 15 heures. Elle devait être rejointe sur place par son collègue de la sécurité et de la protection civile. Ils devront ensuite se rendre au chevet des blessés. Les autorités politiques et administratives de la région se sont aussi rendues sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Si l'on ignore pour le moment la cause de l'accident, beaucoup d'internautes qui ont relayé les images des deux voitures déchiquetées par la violence de la collision pointent du doigt l'excès de vitesse. A noter que cette route nationale numéro 6 fait beaucoup de victimes depuis son agrandissement il y a quelques années. Mais rarement, de mémoire de Malien, un accident aura occasionné autant de morts. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Un autre accident de la route a fait 11 morts ce même jour au Sénégal voisin. L'accident survenu à hauteur de la localité de Ndioum a été causé par une collision entre deux cars, selon les sapeurs-pompiers sénégalais. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System, reporté en 2020 en raison du coronavirus, aura lieu du 7 au 12 septembre à Abidjan, a annoncé aujourd'hui le chanteur Salif Traoré, dit à Salfo. Le Sénégal, pays invité, est attendu avec une délégation de 50 personnes pour exposer ses valeurs culturelles. L'ONU a condamné aujourd'hui les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré. Le gouvernement a par le passé accusé les travailleurs humanitaires d'être du côté des forces rebelles issues du Front de libération du peuple du Tigré, voire de les armer. Les accusations généralisées contre les travailleurs humanitaires doivent cesser, a déclaré Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires lors d'une conférence de presse organisée à Addis Abeba. La directrice de l'USAID, l'Agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé ce mardi à la fin de sa visite de 4 jours au Soudan à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises. La patronne de l'USAID s'est rendue dans la région du Darfour, théâtre de plusieurs années d'un conflit qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Elle s'est également rendue dans le camp d'Oum Rakba, dans l'est près de la frontière éthiopienne, qui abrite des milliers de réfugiés qui ont fui les combats au Tigré en Éthiopie. Madame Power a annoncé une assistance vitale de 56 millions de dollars au Soudan et une autre de 4,3 millions de dollars pour soutenir les élections prévues à la fin de la période de transition en 2024. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé aujourd'hui que son gouvernement était prêt à augmenter le prix du pain subventionné dans le cadre des mesures de rigueur pour le redressement économique du pays. L'État égyptien, le plus gros importateur de blé mondial, a subventionné son pain pendant des décennies, permettant aux citoyens les plus pauvres d'obtenir un lot de 5 miches par jour. Des Égyptiens ont réagi avec colère sur les réseaux sociaux après les commentaires de M. Sissi avec le mot-clé « tout sauf la miche de pain ». Le journaliste marocain Souleymane Raïssoui, récemment condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle, demande à être hospitalisé pour mettre fin à sa grève de la faim entamée il y a 118 jours. Ce week-end, l'état de santé du journaliste s'est détérioré après un malaise, a fait savoir son avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, Ibrahim Raisi, un ultra-conservateur, a été intronisé aujourd'hui président. Il devra s'atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire et relancer les pourparlers pour sauver l'accord international sur le nucléaire. Le point avec Rosine Mounizero.
Conformément au choix du peuple, j'intronise l'homme sage, infatigable, expérimenté et populaire Ibrahim Raisi comme président de la République islamique d'Iran, a écrit le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans un décret lu par son chef de cabinet. Vainqueur de la présidentielle de juin marquée par une abstention record, M. Raisi succède au modéré Hassan Rouhani, qui avait conclu en 2015 un accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Le nouveau président iranien a prévenu qu'il cherchera à obtenir la levée des sanctions oppressives sans lier les conditions de vie des Iraniens à la seule volonté des étrangers. Il a indiqué que la situation économique n'est pas favorable pour le peuple, à la fois en raison de l'inimitié des ennemis et en raison des lacunes et des problèmes à l'intérieur du pays. M. Raisi, 60 ans, a entamé officiellement son mandat de 4 ans après l'approbation de son élection par le guide suprême. Il va prêter serment jeudi devant le Parlement et devra présenter ses candidats pour les postes ministériels.
Combat meurtrier dans la ville afghane de Lashkarga, dans le sud, où 40 civils ont été tués en 24 heures, selon l'ONU. L'armée afghane appelle les populations à évacuer la cité. Abdourahman Dia.
Le général Sami Sadat, plus haut gradé de l'armée dans le sud de l'Afghanistan, a lancé un appel aux populations à travers un message audio. Nous vous demandons de quitter vos maisons dès que possible. Nous allons affronter les talibans et les combattre durement, a-t-il dit. Nous ne laisserons pas un seul taliban en vie. Partez dès que possible afin que nous puissions entamer notre opération, a-t-il ajouté. Plus tôt mardi, la mission de l'ONU en Afghanistan a exprimé dans un tweet sa profonde inquiétude pour les civils à Lashkarga, appelant à la cessation immédiate des combats dans les zones urbaines. La mission onusienne indique que les civils sont particulièrement victimes de l'offensive au sol des talibans et des bombardements de l'armée afghane dans cette ville de 200 000 habitants. Un responsable d'une radio locale a indiqué à l'AFP que les combats ont été intenses ce matin, affirmant que des bombardements menés par des appareils afghans et américains ont ciblé les positions des talibans à l'intérieur de la ville. Il a précisé que sa radio a cessé d'émettre dimanche car les talibans se sont emparés du bâtiment.
Une forte explosion a secoué Kaboul, capitale de l'Afghanistan ce soir, peu avant 20h locales. La secousse a été fortement ressentie dans le centre de Kaboul et un panache de fumée a été aperçu après l'explosion provenant d'un endroit indéterminé. Aucun détail sur l'origine ou les lieux de l'explosion n'était disponible dans l'immédiat. Ici aux États-Unis, le Pentagone était en alerte ce matin en raison d'une fusillade à proximité, selon les services de sécurité du ministère américain de la Défense. Les employés ont été appelés par haut-parleurs à rester à l'intérieur du bâtiment après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus du célèbre bâtiment en banlieue de Washington. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir distribué plus de 100 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 dans le monde, plus de dons que tous les autres pays réunis. Ces dons ne sont que le début des efforts de l'administration américaine pour fournir des vaccins au monde entier, est-il indiqué dans un communiqué. Dès la fin du mois, les États-Unis vont ainsi commencer à expédier les 500 millions de doses du vaccin Pfizer qu'ils ont promis à 100 pays en voie de développement. Voilà pour le journal, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. Get into the game. Place maintenant au sport, la couverture spéciale des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Enfin une médaille pour le Nigeria dans ces JO de Tokyo. Bagasi Koura.
Oui, Eze Brume décroche la première médaille de ces JO pour son pays dans la discipline du saut en longueur. Elle a arraché le bronze avec un saut de 6,97 m, la même performance que la deuxième, l'américaine Britney Reese, qui a réussi un deuxième meilleur bond, d'où sa médaille d'argent. Eze Brume est la première Nigériane sur le podium olympique de la longueur depuis le titre de Chioma Adunua en 1996 à Atlanta. L'or est revenu à l'Allemande Malaika Mihambo, devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7 mètres. Au 200 mètres, la sensation namibienne Christine Mboma, 18 ans, a enlevé la médaille d'argent, devenant la deuxième médaillée olympique de l'histoire de la Namibie, tous sports confondus, après bien sûr le sprinter Frankie Frédéric, star des années 90. La grosse déception est ivoirienne, Marie-Josée Talou a fini la course à la cinquième place. L'épreuve a été dominée par la Jamaïcaine Helen Thompson-Herah, qui a réussi du même coup le doublé trois jours après le 100 mètres, comme à Rio en 2016. Avec le deuxième chrono le plus rapide de l'histoire, 21 secondes 53, l'américaine Gabrielle Thomas a pris la troisième place. En boxe, messieurs, le Ghanéen Samuel Taki a enlevé le bronze à égalité avec le Cubain Lazaro Alvarez.
Merci, Bagassi. Un peu plus tôt, dans l'épreuve du triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est qualifié pour la finale avec un saut à 16,83 m, loin de ses standards habituels. La finale aura lieu jeudi 5 août aux 1500 mètres, messieurs. Le Kenyan Timothy Cheruiyot a fini deuxième de la série numéro 1, 3 minutes 36, derrière le Belge Ismaël Devjani. Avec le même chrono, l'Éthiopien Tedes Lemi a occupé la deuxième place de la série numéro 3. L'autre Kenyan Abel Kipsang a terminé premier de la série 2 en 3 minutes 40. Aux 5000 mètres, messieurs, le Kenyan Nicolas Kipkorir Kimeli est arrivé premier de sa série. Dans le reste des nouvelles de ces JO, la superstar de la gymnastique, Simone Biles, a remporté la médaille de bronze lors de la finale de la poutre derrière la chinoise Guan Shashen. En basketball, messieurs, Team USA, triple champion olympique en titre, a écarté sans ménagement l'Espagne 95-81 pour se qualifier pour les demi-finales. En football masculin, le Brésil sacré chez lui en 2016 s'est qualifié pour la finale à l'issue des tirs au but. 4 tirs réussis contre 1 face au Mexique, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Samedi en finale, les Brésiliens feront face à l'Espagne, victorieuse après prolongation du Japon 1-0 dans l'autre demi-finale. Vous le savez, les athlètes réfugiés participent aux Jeux Olympiques sous la bannière de l'équipe des réfugiés du Comité international olympique. Animés d'espoir, les familles des athlètes réfugiés du camp de Kakuma au Kenya leur envoient des messages d'encouragement et des bénédictions.
Angelina Nadailo Halif faisait partie de l'équipe historique de réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio il y a 5 ans. À Tokyo, elle vivra alors à l'épreuve des 1500 mètres. Sa tante Marie est extrêmement fière.
Je pense qu'elle est un exemple pour la jeunesse. Elle m'inspire beaucoup. Si j'étais jeune, j'aurais vraiment aimé devenir une athlète. Je continue d'encourager mes propres enfants à s'inspirer d'Angelina.
Tout comme Angelina, les athlètes Paolo Amutun et Rose Natike ont également échappé à la guerre au Soudan du Sud. Depuis, ils vivent au camp de réfugiés de Kakuma et s'entraînent dans un centre sportif à Ngong, près de la capitale Nairobi. Véronica, la maman de Rose Naidishi, lui envoie des bénédictions.
Que Dieu t'accorde un cœur pur, cours avec, cours comme tu le fais en temps normal. Je prie pour que tu puisses remporter la première place du podium.
Regina, la sœur de Paolo Amoton, espère également que son frère reviendra avec la médaille d'or.
Je souhaite que tu te classes en excellente position pendant la course et je prie pour que le Seigneur te guide vers la victoire.
Cette année, ils sont 29 athlètes réfugiés à concourir à Tokyo dans 12 disciplines sous la bannière du drapeau olympique.
Merci Sidibou. Cette ici qui se referme cette fenêtre consacrée aux Jeux Olympiques.
Page de sport signé Yakuba Oudraoui. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, c'est toujours la confusion dans le processus de désignation du président de la CENI, la commission électorale. L'Église catholique et les autres cultes représentés dans la commission n'arrivent pas à trouver un consensus. Marius Munga a joint l'évêque général Dodo Kamba, président et représentant légal de l'Église de réveil au Congo, qui parle au nom des 6 autres confessions religieuses.
Une ou deux confessions religieuses peuvent prendre une position de pouvoir soit désigner ou s'abstenir. Donc, on ne les reproche de rien en principe, mais nous, le travail a été fait. Nous avons désigné, nous étions à la majorité à pouvoir accepter de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, on ne les reproche de rien, on a fait notre travail.
Quels sont les critères qui ont primé pour le choix de ce candidat?
On a tenu compte de l'expertise. Et ce qui n'était pas douté hein, pour toutes les 8 confessions religieuses, tous les 8 chef, en fait.
Comment réagissez-vous à la CINCO et l'ECC qui disent que le candidat de votre choix ne remplit pas les conditions d'éthique et d'indépendance qui sont importantes pour être président de la CENI?
S'ils trouvent que ce n'est pas convenable, ben c'est leur choix, c'est la règle démocratique et puis c'est une valeur en même temps. On respecte leur position et ben c'est tout à fait normal qu'ils puissent penser de la sorte, mais nous on n'a pas vu ça, malheureusement.
Qu'est-ce qui vous donne l'assurance que le candidat de votre choix, c'est le candidat qu'il faut pour la CENI?
Départ, son expertise et l'expérience en même temps. Voilà, j'ai omis de rajouter ça. L'expérience, je crois que le moment venu où vous prendrez connaissance de celui qui avait été désigné, vous jugerez la qualité du travail que nous avons fait.
Reviendrez-vous sur la table de négociation s'il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale ou si l'Assemblée nationale n'accepte pas votre candidat?
Je ne pense pas qu'on puisse en arriver là parce que l'Assemblée nationale prône pour des valeurs et surtout démocratiques. Mais il faut avouer aussi que le président de l'Assemblée, à un certain moment, nous a demandé de faire une petite marche en arrière, tout en nous accordant 48 heures pour pouvoir nous mettre ensemble et prendre une décision d'ensemble. Mais ça n'a pas abouti parce que les autres ont maintenu leur position, ce qui est tout à fait normal.
Est-ce que vous reviendrez sur la table de négociation si cela était nécessaire?
Ben, si vous dites bien si cela sera nécessaire, mais je ne pense pas qu'il puisse être nécessaire d'y revenir parce qu'on produira le même résultat.
Le week-end dernier, il y a eu des actes de vandalisme visant certaines églises catholiques dans le centre du pays et la résidence du cardinal Ambongo à Kinshasa. Ne craignez-vous pas que votre position puisse créer un climat malsain dans le pays?
On a déploré ces actes de vandalisme, hein. On a déploré ça et aussi des propos désobligeants qu'ont tenus les autres. Donc nous disons que ce n'est pas la meilleure façon de pouvoir revendiquer quoi que ce soit et nous avons déploré ça. Et d'ailleurs, nous nous sommes montrés solidaires envers l'église catholique, en soutien de tous les fidèles de l'église catholique. En principe, ça ne devra pas être la pratique et le fonctionnement du peuple congolais. Et nous croyons que nous allons atteindre un niveau où les gens apprendront à respecter démocratiquement le vouloir des autres. Cela ne doit pas coûter la vie à quelqu'un ou encore pousser les gens à agir de cette façon.
Dodo Kamba, président de l'église Réveil au Congo.
Abdelrahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la bataille autour de la CENI en RDC. Ce week-end, le processus de nomination du président de cette structure chargée d'organiser les élections a tourné au vinaigre lorsque l'archevêché de Kinshasa et 12 édifices catholiques dans le Kasaï ont été attaqués. Une tension qui survient 2 jours après des divergences sur le choix du président de la CENI, approuvé par 6 des 8 confessions religieuses. Avec nos invités, nous discuterons des enjeux autour de la composition des membres de la CENI en vue de la présidentielle de 2023.
ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Burkina Faso, une organisation de la société civile s'alarme du sort de centaines de déplacés de Bassalogo dans le nord. Ils ont subi des menaces d'hommes armés et une quarantaine ont été enlevés ce lundi. Selon le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, cette situation a créé la panique et ces déplacés ont tous quitté ce camp. Daouda Diallo est le secrétaire général du CISC.
Dans la nuit du vendredi 29 juillet, ils sont venus enlever deux personnes. Ils sont partis avec, ils ne sont plus jamais revenus. Et dans la nuit du 1er août au 2 août, encore les hommes armés non identifiés sont venus rendre visite au camp. Ils ont enlevé cette fois-ci plus de 40 personnes avec des femmes. Voilà. Déjà dès le premier enlèvement, ils avaient donné instruction ferme que tous les déplacés devaient vider les camps en moins d'une semaine. Voilà. Et donc, dans cette panique généralisée et cette débandade qui s'est installé là-bas. Et les déplacés étaient obligés de quitter les camps. Beaucoup ont pris des directions vraiment vers inconnues, d'autres vers Kaya, d'autres dans le sens de remonter vers Dori. Et aujourd'hui, d'autres aussi n'ont pas pu quitter les environs de Bassalogo.
Ce camp était sous la responsabilité de qui?
Ce camp aménagé depuis janvier 2019 était placé sous la direction de l'action sociale, donc sous la direction de l'administration burkinabé. Et la sécurité était assurée par les forces de défense et de sécurité jusqu'en début 2020.
Là, on parle de combien de personnes à peu près?
Le camp abritait au moins 2000 personnes déplacées qui étaient officiellement enregistrées. Voilà, mais avec le temps, avec la dépression, l'insécurité, certains avaient eu soin de s'enfuir, de quitter ces camps pour se réfugier ailleurs, soit à Ouagadougou ou d'autres localités. Mais actuellement, il faut dire que plus de la moitié a pu fuir le camp, a quitté les lieux. Actuellement, on a à peu près autour de 1000 personnes voilà, qui sont toujours dans la débandade, dans le département de Bassalogo.
Et depuis ces événements, que dit le gouvernement?
Oui, depuis ces événements, il n'y a aucune mesure forte qui a été prise par le gouvernement jusqu'à présent, si ce n'est le déploiement des éléments des forces de défense et de sécurité hier, qui sont arrivés hier 2 août dans l'après-midi au niveau du département de Bassalogo et qui travaillent à rassembler, à réunir les déplacés, qui les demandent de ne pas quitter la localité. Mais ils font face à la résistance des déplacés qui disent qu'ils ne peuvent plus rester dans une zone où ils sont permanemment en danger.
Daouda Diallo, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo demande la libération de ceux qu'il appelle des prisonniers politiques. Pendant sa rencontre le 27 juillet avec le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo lui a transmis une liste de 110 détenus, des personnes arrêtées après la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la présidentielle et en juin dernier en marge du retour en Côte d'Ivoire de M. Gbagbo. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Abidjan Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises.
Le président Laurent Gbagbo nous a reçus effectivement hier. Il nous a rassurés, réconfortés pour nos parents qui étaient écartés. Il a dit qu'il était de tout cœur avec nous. Il nous a dit qu'il a vraiment plaidé le cas de nos parents qui sont détenus auprès du président Alassane Ouattara. Le président même, Laurent Gbagbo, l'a dit lui-même fier. Le chef de file est dehors. Il ne comprend pas pourquoi. Les autres, surtout les prisonniers de la crise électorale de 2010 soit encore en prison. Mais le président Alassane a dit qu'il prenait acte de ce que le président Laurent Gbagbo venait de lui dire. Le président ne lui a pas donné de réponse. Il lui a pas dit non, il lui a pas dit oui, mais il a pris acte. Donc nous gagnons espoir.
Justement, qu'est-ce qui vous fait garder espoir lorsque le président dit qu'il a pris acte?
Nous gardons espoir parce que quand il dit qu'il a pris acte, pour nous, il n'a pas dit qu'il veut pas. Et le fait que les deux grands se sont rencontrés et qu'ils ont parlé, et qu'aujourd'hui tout le monde parle de réconciliation, tout le monde parle de processus de réconciliation, et nous savons que la réconciliation est plus la libération de tous ceux qui sont détenus. Nous avons beaucoup d'espoir en cela.
Vous dites la vraie réconciliation passe impérativement par la libération des prisonniers. Et ça dit que si ces personnes ne sont pas dehors, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire.
Ce que je veux dire, la réconciliation, c'est en tous les pays et filles du pays. Donc on ne peut pas parler de réconciliation lorsqu'il y a des personnes en prison. Parce qu'ils ne peuvent pas être exclus de la réconciliation. Il faut qu'ils prennent part à la réconciliation pour qu'ils puissent réellement prendre part à la réconciliation. Il faudrait peut-être libérer. Est-ce que quelqu'un qui est en prison et qui souffre, une femme qui est dehors, qui a son mari incarcéré, elle a mal, elle regarde l'autre en chien défaillant. Est-ce que là, on peut parler de réconciliation? On ne peut pas. Il faut que tout le monde ait le cœur apaisé, que la réconciliation soit vraie et réelle. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une réconciliation vraie, il faut que toutes ces personnes qui sont en prison puissent retrouver la liberté. Pour qu'ensemble, on puisse marcher main dans la main pour une nouvelle Côte d'Ivoire.
Lorsqu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, on a souvent comme l'impression que c'est une réconciliation entre leaders politiques, notamment Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié. Vous, qui êtes à la base, est-ce que vous avez un cadre d'échange qui vous permet de vous réconcilier entre vous-même, je vais dire?
Nous qui sommes les épouses et parents des deux, nous, notre problème là, ou que nous soyons concernés par cette réconciliation dont on parle, nous voulons voir nos maris dehors. Nous, c'est tout. Même si le président Alassane, le président Gbagbo, le président Bédié viennent s'asseoir à une table ronde, dîner ensemble, rire, nous qui sommes meurtris, nous qui avons nos parents en prison, nous disons que nous ne sommes pas concernés par cela. C'est pourquoi je dis que en tout le monde, on parle de réconciliation. Si l'autre partie est exclue, on ne peut pas parler de réconciliation.
Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
Sept agences gouvernementales, dont l'USAID, vont travailler avec les secteurs privés américains et africains pour favoriser les investissements en Afrique. L'annonce a été faite à l'occasion du 13e sommet États-Unis-Afrique, organisé la semaine dernière par le Corporate Council on Africa. C'est ainsi qu'une campagne de promotion de l'initiative Prosper Africa Build Together a été lancée. Le président Biden va demander au Congrès 80 millions de dollars supplémentaires pour la promotion des investissements privés en Afrique. Pour en parler, Abdourahmane Dia, adjoint à Johannesburg, Marissa Scott-Torres.
Il s'agit d'un effort ciblé pour accroître et dynamiser l'engagement des États-Unis en faveur du commerce et de l'investissement avec les pays du continent africain sous l'administration Biden-Harris.
Alors si je comprends bien, l'investissement privé sera un peu le fer de lance de cette campagne. À côté de la coopération traditionnelle avec des institutions comme l'USAID, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez décidé de mettre l'accent sur l'investissement privé?
Oui, le secteur privé aux États-Unis est le meilleur secteur du monde. Il y a plus de 300 millions de personnes, dont 300 millions de personnes aux États-Unis. Donc, beaucoup de l'opportunité pour l'engagement entre des entreprises américaines et les entreprises africaines. Donc, vous avez vu, il y a quelques exemples concrets que nous avons faits. Par exemple, avec le Development Finance Corporation des États-Unis ou bien le DFC, on a débloqué un financement de 2 milliards de dollars pour des projets en Afrique au cœur du premier semestre de l'année 2021 et en temps de mobiliser au moins 500 millions de dollars supplémentaires d'ici fin de l'année. Et aussi, le Millennium Challenge Corporation a aussi signé un accord de coopération avec le système d'échange d'énergie électrique ouest africain. Donc, il y a plusieurs exemples comme le gouvernement américain pour les entreprises américaines à essayer d'engager les entreprises africaines plus et mieux.
Et pour ce qui est des entreprises américaines, vous ne craignez pas un peu pour la question de la stabilité politique, par exemple, ça va être un facteur.
Nous voulons que les entreprises qui aient d'intérêt d'avoir une relation avec les entreprises américaines travaillent dans un environnement qui est transparent et dans un pays où on peut trouver de bonnes gouvernances.
Quels sont les secteurs ciblés essentiellement?
L'initiative de Prosper Africa consiste de 17 départements ou bien agents américains. Donc, c'est-à-dire, y compris USAID, Power Africa, MCC, DFC, plusieurs d'autres qui travaillent ensemble pour faciliter les transactions entre les entreprises américaines et aussi les entreprises africaines.
C'était Marisa Scott-Torres, une des porte-parole du département d'État américain. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Dion à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.